Les élèves de 4e C du collège Lautrentanel de Gignac, en partenariat avec RPH, vous présentent leur chronique sur le thème des réseaux sociaux.
Témoignages, débats, investigations, ils nous partagent leur vision des médias sociaux actuels.
Merci à tous les élèves qui ont participé, ainsi qu'au professeur de lettres classiques Jean-Christophe Benzal et à la professeure documentaliste Patricia Ledamani.
Bonjour, bienvenue sur Radio Pays des Raux. Je suis Chris et je présente cette chronique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet trop souvent oublié, l'homophobie sur les réseaux sociaux. Pour cela, nous accueillons Sacha, notre témoin, et Kélia, notre expert. Bonjour Sacha, vous êtes donc témoin, mais qu'est-ce que témoin veut dire? Avez-vous été la victime d'homophobie sur justement les réseaux sociaux?
Oui, alors témoin peut vouloir dire plusieurs choses. À partir du moment où l'on voit l'action de violence ou d'homophobie être faite, on est témoin. On peut être témoin et victime, témoin et harceleur, ou juste être passé à côté d'une scène d'harcèlement dans la rue. À partir du moment où on voit l'acte, on est témoin.
Et pour vous, comment ça s'est passé?
J'ai toujours été plus attirée par les femmes que par les hommes. Certains le voyaient d'un bon œil, d'autres non. Quand j'avais 15 ans, j'ai décidé de faire mon coming out sur Instagram. Je ne me sentais pas totalement confiante, mais mes amis m'ont encouragée. Le plus stressant pour moi, c'est que mes parents suivaient mon compte. Mais quand j'ai publié ce coming out, je me suis très vite rendu compte qu'il avait été beaucoup liké et que j'avais plein de commentaires positifs. Mes parents eux-mêmes avaient plutôt bien pris la nouvelle. Tout se passait pour le mieux jusqu'à ce que je vois un matin en me réveillant un commentaire disant « c'est dégueulasse ». De ce seul petit commentaire est partie une réaction en chaîne. Plein de gens ont commencé à commenter « sale PD, c'est à cause de des gens comme toi que le monde va mal » ou encore « c'est immonde, tu ne mérites pas de vivre ». Au début, je les ignorais, mais c'est devenu de plus en plus dur. Les harceleurs ont même réussi à me trouver sur les autres réseaux. J'avais désormais des « tiens, mais c'est l'autre PD » sur TikTok aussi. Je supprimais les commentaires, signalais les comptes, mais rien n'y faisait.
Mais les harceleurs étaient-ils totalement conscients que leurs actes étaient justement du harcèlement ou de l'homophobie? Ne pensaient-ils pas que leurs actions n'avaient aucun rapport?
Je ne pense pas qu'ils étaient totalement conscients de leurs actes s'apparenter à du harcèlement ou même de l'homophobie.
Beaucoup me disaient, non mais c'est deux, trois personnes qui sont cachées et qui vont jamais oser faire l'acte d'eux, de ce qu'ils disent. Mais en vrai, quand tu lis et que tu lis ça toutes les minutes, tu te dis véritablement que ça va pouvoir se passer, que tu te dis ça va pouvoir se retranscrire dans la vraie vie et comment je fais? Certains pensent que c'est juste des messages comme ça sur Internet, mais il y a des choses véritablement qui existent après dans la vraie vie des gens, psychologiquement et même physiquement. C'est le retour de tête comme ça pour savoir si tout va bien se passer derrière moi. C'est physique et c'est quelque chose qui mentalement change beaucoup chez soi et te fait comprendre qu'il y a un problème et que tu as peur. Donc oui, j'ai pas de problème à assumer le fait d'être fragile, sensible, et surtout encore plus quand des groupes de personnes te disent qu'ils vont te tuer.
Et comment vous êtes-vous sorti de cette situation?
Grâce au réseau aussi. Un jour, j'ai reçu un message en privé d'une certaine Léa LGBT qui me disait qu'elle était consciente que cela s'apparentait à du harcèlement et m'a aidé à porter ma plainte. Grâce à ce compte, j'ai pu témoigner et ainsi, grâce à tout ça, j'ai pu trouver des amis et des alliés pour m'aider dans les démarches administratives et le signalement de mes harceleurs. Grâce à tout ça, j'ai pu retrouver une vie normale.
C'est une bonne chose que vous ayez pu en parler. Il existe en effet des sites ou des comptes de réseaux sociaux qui permettent de témoigner et de porter plainte. Pouvez-vous nous en dire plus, Kélia?
Oui, en effet, comptes de réseaux sociaux, blogs, interviews, numéros verts, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Vous êtes la victime, vous avez le droit d'être aidé et retrouver une vie normale.
Mais expliquez-nous, pourquoi l'homophobie est-elle plus présente sur les réseaux sociaux que dans la vie en société?
Dire que l'homophobie est plus présente sur les réseaux sociaux peut donner l'impression qu'elle est moins présente dans la vie réelle. Ce n'est pas le cas. Dans la vie réelle, les crimes homophobes sont de 3780 délits commis cette année. Mais cela est en effet encore plus présent sur les réseaux sociaux.
Pourquoi?
Eh bien, derrière son écran, l'harceleur ne se situe pas forcément derrière ses propos et ses actes. Déjà que la prise de conscience est dure dans la vie réelle, imaginez-vous derrière un écran.
Et dans la vie réelle, comment ça se passe?
Dans la vie réelle, ça se résume en grande partie à des moqueries, agressions verbales ou physiques. Pour vous donner un exemple, le harcèlement au travail par rapport à la sexualité a augmenté de 9% entre 2020 et 2021.
Ben pour moi, c'est montrer l'exemple de ce que peut faire la justice aujourd'hui, même l'écoute quand je suis allé porter plainte dans les bureaux de police. On sent encore qu'ils ne sont pas encore tout à fait habitués, même dans les instances, quand on était au procès, par exemple, à plusieurs reprises, le juge m'a demandé comment ça se passait Instagram. Il m'a demandé de lui expliquer une story, Et c'est vrai que pour nous, ça nous paraît des choses complètement folle, mais pour bien comprendre en fait comment ça se passe et comment ces gens-là arrivent à pouvoir publier ce genre de choses-là, le juge a besoin de tout comprendre. Et donc il y a tout un tas de petites techniques comme ça sur lesquelles les avocats de la défense vont énormément jouer, mais plus en fait on va comprendre les rouages de ces façons de faire-là, plus la justice sera au courant de comment ça se passe et qu'on aura éduqué notre justice aussi à voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, plus je pense qu'on arrivera à nos fins, c'est-à-dire moins de violence et moins de haine sur les réseaux.
Et vous, Sacha, avez-vous déjà été témoin ou victime d'harcèlement homophobe en dehors des réseaux sociaux ?
Oui, c'était au lycée. J'avais un ami qui était un élève comme les autres. La seule différence était son orientation sexuelle. Il était efféminé. Les autres garçons ont commencé à l'insulter, de tapettes, de salpêter et plein d'autres. Mais ça s'est vite transformé en coups de poing, des gifles et des crachats. Ça se passait dans les toilettes et en cours de sport. Il évitait au maximum d'y aller. À cause de ça, il a commencé à développer des terreurs nocturnes, des vomissements causé par l'angoisse, il a perdu ce qu'il avait de plus précieux à cette époque, son sourire. Il n'était écouté par personne, et quand il allait se plaindre auprès du principal, celui-ci a estimé que ce n'était pas grave.
Mais c'est horrible! Comment ça s'est fini pour lui?
5 ans plus tard, ses harceleurs se sont orientés dans la filière professionnelle. Il a enfin eu un peu de répit, et grâce au théâtre, il a trouvé une forme de résilience. On découvrait pour la première fois son charisme enfoui.
Quel est Sacha? Tous les deux, que pouvez-vous nous dire pour clore cette émission?
Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est le chiffre choquant. 80% des personnes LGBT ont vécu de l'homophobie, de l'harcèlement ou cyberharcèlement. Mais retenez bien que cela va contre la loi et que les sanctions possibles sont, si la victime a moins de 15 ans, l'homophobe risque 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et si la personne victime a moins de 15 ans, l'homophobe risque 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
Il faut oser en parler, vous n'êtes pas seul et surtout n'ayez pas honte de votre sexualité. Comme a dit un grand homme, love is our resistance.
Très bien, merci Kélia, merci Sacha et surtout merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir chers auditeurs.
Rien à foutre d'être dans le coup, je préfère nager chelou en tant que victime. Avec moi et mes peines orphelines, laissez les gens parler dans le fond. Gars, laisse-moi là dans le flou, tu verras, je peux faire de grandes choses avec mon spleen. Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent, j'ai de l'or dans mon moleskine. À refaire, je ne serai pas celui qui se plie pour tenter de plaire. Je serai celui hors des critères qui choisit son temps. À refaire, je serai plutôt celui qui se met en avant et fier. Ce qu'on n'a pas voulu faire de lui, c'est trop longtemps laissé taire. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Free. Quand je nage dans les rues, as-tu vu mes écorces là qui me protègent à mon insu? Vu sentir mes balafres contre les casse-toi tu pues.
Moi je ne marche plus à l'ombre. Moi je ne marche plus à l'ombre. J'ai mis dans les magazines toutes mes tares qu'on se le dise. Je compte encore m'en servir, les remettre dehors que ça brille. À tous les bizarres, oh les étranges, oh les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, oh les exclus, oh sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre toujours dans le noir.
Bonjour, aujourd'hui nous allons interroger des experts qui vont nous parler des fausses identités sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une identité ? Je vais interroger une experte en définition.
Bonjour, une identité, c'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi toutes les autres. Par exemple, son prénom, son nom de famille, sa date de naissance, etc.
Donc on voit que c'est essentiel pour une personne. Alors, qu'est-ce qu'une fausse identité ?
Les fausses identités sont créées par des personnes pour se faire passer pour d'autres personnes grâce à l'anonymat des réseaux sociaux. Ces personnes utilisent des pseudonymes pour ne pas donner leur vrai prénom.
C'est grave tout ça, mais pourquoi ces personnes créent des fausses identités ? Je vais donner la parole à une experte en fausses identités.
Bonjour. Alors généralement, ça peut partir d'une mauvaise intention, comme c'est certains cas que je vais vous citer. Ça peut être des adultes qui se font passer pour des enfants pour ensuite leur faire du mal. Ça peut aussi être des enfants qui mentent sur leur âge pour avoir accès aux réseaux sociaux. Et ça peut être des personnes qui hackent les comptes pour avoir accès aux informations personnelles des autres. Et il existe encore plein d'autres cas.
On comprend que ça peut faire peur, donc comment peut-on s'en protéger ? Je vais donner la parole à une experte en prévention.
Bonjour, il y a plusieurs choses à faire pour s'en protéger. Éviter de communiquer avec des personnes qu'on ne connaît pas ou s'assurer que c'est bien la bonne personne. Prévenir le réseau social si on s'en rend compte ou même la police si c'est un cas grave. Éviter d'envoyer des photos de soi. Et pour finir, ne pas utiliser les réseaux sociaux avant l'âge recommandé et avoir une surveillance parentale.
Nous vous sommes reconnaissants pour ces conseils. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Bonjour, bienvenue sur Radio Pays des Raux. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision des jeunes à travers les réseaux sociaux. Avec Lison.
Bonjour.
Félix.
Bonjour.
Et notre invitée Amélie.
Bonjour.
On commence tout de suite avec les chiffres présentés par Lison.
Nous avons fait une consultation sur 11 personnes de la classe de 4e C du collège Lautrin-Tanel de Gignac. En moyenne, ils passent 1h40 par jour sur les réseaux sociaux et majoritairement sur TikTok. Bien sûr, cela est trop et en plus, la majorité de ces personnes a eu accès aux réseaux sociaux à l'âge de 11 ans, alors que l'âge légal est de 15 ans. Bien sûr, cela n'est pas normal et certaines personnes en ont constaté les conséquences.
Merci beaucoup pour ce sondage. Maintenant, on passe à la petite chronique de Félix sur l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur les jeunes.
Bonjour, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour parler des chiffres effarants qui sont apparus depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Ce n'est peut-être pas le sujet le plus drôle, mais c'est important d'en parler. D'ailleurs, n'hésitez pas à confier vos expériences au 0810 037 037. Mais avant de commencer, c'est quoi un trouble alimentaire ? Il existe des centaines de maladies mentales dues à l'alimentation, mais celles qui sont le plus en lien avec les réseaux sociaux sont la boulimie. Elle se caractérise par des prises compulsives de quantité de nourriture, suivies de comportements compensatoires, donc des vomissements, des prises de laxatifs, jeûne ou exercice physique excessif. L'anorexie se caractérise par une restriction des apports alimentaires durant plusieurs mois, voire plusieurs années, conduisant à une perte importante de poids associée à un certain plaisir de maigrir. De nombreux travaux ont montré que les médias traditionnels, comme les réseaux sociaux, la télévision et même les magazines, véhiculent de fortes pressions incitant à essayer d'atteindre des idéaux corporels idéalistes et parfois irréalistes, tant pour les femmes que pour les hommes. Les images du corps qu'ils diffusent, inatteignables et irréalistes, mènent à garder pour soi l'idéal d'être mince et musclé. Face à cette insatisfaction corporelle, certaines personnes s'imposent un contrôle alimentaire strict, en ouvrant la porte notamment à des troubles alimentaires.
Merci beaucoup pour cette chronique. Et donc pour finir, le témoignage de notre invitée Amélie. C'est une jeune fille qui souffre de boulimie. Alors bonjour Amélie.
Bonjour.
Comment est-ce que tu vis cette épreuve? Raconte-nous un peu ton histoire.
C'est une question très complexe et qui est très dure à répondre. Si je devais la qualifier, je dirais qu'il s'agit d'un monstre, comme d'un enfant qui vit dans mon ventre et qui passe son temps à manger des cochonneries. Et j'ai eu du mal à apprendre à le gérer. Il m'a fait beaucoup souffrir. En fait, il me faisait lever la nuit. Je pouvais dévaliser complètement mes tiroirs. J'avais même mangé des aliments congelés. Et en fait, à chaque fois que je faisais ça, c'est comme si j'étais prise d'une transe d'envie de manger sans jamais être rassasiée, comme si j'étais un peu possédée. Et quand je me réveillais, j'avais plus trop le souvenir d'avoir vécu ça et j'étais prise d'une énorme culpabilité, d'une haine envers moi. Je me détestais. Du coup, ça pouvait aller jusqu'à me faire vomir. Je prenais beaucoup de laxatifs. Je faisais abusément du sport pour essayer de compenser parce que j'avais très peur de grossir.
Comment et quand ce monstre est-il apparu ?
Bien, je dirais que je l'ai toujours eu, mais il s'est déclenché vers mes 12-13 ans, car j'étais vraiment pas à l'aise dans mon corps. Je pense avoir eu quelques kilos en trop, et je me suis prise pas mal de remarques de mes parents notamment, qui, pour mon bien, me disaient « tu devrais faire attention » ou « mange des fruits, c'est bon pour ce que t'as ». Et je pense que celle qui m'a le plus marquée, c'est à 14 ans, en quatrième, mon prof de sport qui m'a dit, je m'en souviendrai très bien, « Tu devrais courir, c'est bon pour ce que t'as ». Et ça peut paraître très bête, mais ça m'a marquée à vie, je pense. Et ça reste encore gravé, car quand on est une enfant et qu'on sait qu'on a des problèmes avec l'alimentation, qu'on est très peu à l'aise dans son corps, ce genre de remarque est très violente. Mais heureusement, j'ai pu bénéficier de l'aide quand mes parents se sont rendus compte. Ils m'ont beaucoup aidée. J'ai une psychologue qui a été beaucoup là et qui m'a appris à gérer mon stress et mon monstre. Et maintenant, je vis avec et j'arrive à prendre le dessus sur lui.
Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage très touchant qui, j'espère, aura aidé et répondu aux questions de nos auditeurs. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup de risquer un mal-être constant à propos du corps, de l'alimentation, de perdre un temps fou, d'être exposé trop jeune à des contenus sensibles, à des violences, discriminations et du harcèlement pour des réseaux sociaux? C'est la question qui ne trouvera peut-être jamais de réponse. Je vous dis au revoir avec toute l'équipe.
Au revoir. Au revoir.
Alors, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du ghosting. Si vous ne savez pas ce que c'est le ghosting, nous allons laisser la place à Raphaël qui va tout vous expliquer.
Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Le ghosting, c'est quand deux personnes se contactent sur les réseaux sociaux et que y a soit une relation amoureuse, soit une relation amicale. Mais à un moment, sans donner de raison apparente, une personne arrête de voir et bloque la personne.
D'accord, merci Raphaël. Du coup, après quelques petites recherches, nous avons réussi à trouver une personne qui a vécu le ghosting. Du coup, bonjour Sarah.
Bonjour.
Alors Sarah, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre situation, donc ce qui vous est arrivé?
Bonjour, oui, j'ai été victime du ghosting. Il y a quelques mois de cela, une certaine Maria m'a contactée sur Instagram et de fil en aiguille, on s'est apprécié de plus en plus. On a commencé à se voir dans la vraie vie, sauf qu'à un moment, elle a commencé à ne plus donner de nouvelles et donc du coup, du jour au lendemain, elle m'a bloqué et de partout.
D'accord, voilà. Merci. Avec quelques petites recherches, nous avons trouvé la personne qui vous a fait ça. Nous l'avons invitée pour qu'elle puisse vous expliquer en détail pourquoi elle a fait ça. Et qu'est-ce qu'elle a ressenti elle aussi? Bonjour Maria.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous expliquer votre situation à vous aussi?
Donc, en fait, je l'ai bloquée de partout parce que je pensais tout simplement que c'était une mauvaise influence pour moi. Parce qu'elle me critiquait sur tout ce que je faisais, ma façon d'être, ma façon de penser. Et ça m'a pas plu du tout. Elle m'insultait et même si c'était pour rire, c'est pas marrant.
D'accord. Sarah, avez-vous plus d'explications sur ce sujet à nous donner?
Quand le jour où je n'ai eu plus de nouvelles d'elle, donc je me suis sentie un peu décotée et donc je me suis dit que j'avais fait quelque chose de mal, mais que moi je le voyais pas. Voilà.
Alors Maria, qu'avez-vous ressenti sur toute la situation?
Je regrette beaucoup de l'avoir bloqué de partout, parce qu'on s'entendait vraiment bien avec Sarah, on était vraiment meilleurs amis.
Que pensez-vous avoir fait ressentir à Sarah?
Je pense que je l'ai fait ressentir la tristesse et peut-être la frustration. Et je suis vraiment désolée, mais c'était mieux pour moi.
Et vous, Sarah, avez-vous regretté ce que vous avez fait à Maria?
Oui, je regrette.
D'accord. Et du coup, pensez-vous pouvoir vous reparler ou c'est mort?
Pour l'instant, je sais pas du tout.
Et vous, Maria, pensez-vous reparler un jour à Sarah?
Je pense pas.
D'accord, merci. Et êtes-vous en blanc là toutes les deux ou juste non. Vous voulez plus vraiment vous parler?
Ça fait du bien de faire une pause quand même, parce que vu tout ce qu'elle m'a fait, ça m'a fait beaucoup de mal et j'ai pas envie que si je lui reparle, qu'elle recommence. Et voilà.
Merci d'être venu sur ce plateau pour expliquer votre histoire et du coup, nous vous laissons repartir sereinement.
Donc, merci à Maria et à Sarah d'être venues sur notre plateau et à la semaine prochaine.
Les élèves de 4e C du collège Lautrentanel de Gignac, en partenariat avec RPH, vous présentent leur chronique sur le thème des réseaux sociaux.
Témoignages, débats, investigations, ils nous partagent leur vision des médias sociaux actuels.
Merci à tous les élèves qui ont participé, ainsi qu'au professeur de lettres classiques Jean-Christophe Benzal et à la professeure documentaliste Patricia Ledamani. Talking about.